Bonjour à tous. Nous allons continuer, c'est-à-dire la brève étude, elle va se répartir probablement sur au moins une quinzaine de semaines, l'étude sur le tabernacle. Nous avons eu la première leçon, l'introduction. Je pense que le sujet nécessite une introduction. Et la semaine dernière, nous avions vu une vue d'ensemble. Donc, nous avions regardé à partir du chapitre 25, aller jusqu'au chapitre 40, l'ensemble de tout le tabernacle, le parvis et tout ce que ça contenait, le saint des saints, tout ça. Et on avait regardé l'ensemble des diapositives. Ce que je voulais faire au début, c'est que avant de regarder les petits morceaux du puzzle ou du casse-tête, on a commencé par regarder la vue d'ensemble. Donc là, vous avez eu une vue d'ensemble. Et cette semaine, on va regarder à partir du verset 10 du chapitre 25. Alors, si vous voulez tourner avec moi, on va aller lire cette section-là et ensuite, on expliquera un peu les choses qui concernent cette section des Écritures-là. Alors, on tourne dans Exode 25, à partir du verset 10, aller jusqu'au verset 22. Exode 25, verset 10 à 22. Alors, ça se lit comme suit. « Ils feront une arche de bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées et demie, sa largeur d'une coudée et demie, et sa hauteur d'une coudée et demie. Tu la couvriras d'or pur, tu la couvriras en dedans et en dehors, et tu y feras une bordure d'or tout autour. Tu fondras pour elle 4 anneaux d'or, et tu les mettras à ses 4 coins, 2 anneaux d'un côté et 2 anneaux de l'autre côté. Tu feras des barres de bois d'acacia et tu les couvriras d'or. Tu passeras les barres dans les anneaux sur les côtés de l'arche pour qu'elles servent à porter l'arche. Les barres resteront dans les anneaux de l'arche et elles n'en seront point retirées. Tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Tu feras un propitiatoire d'or pur. Sa longueur sera de 2 coudées et demie et sa largeur d'une coudée et demie. Tu feras 2 chérubins d'or. Tu les feras d'or battu aux 2 extrémités du propitiatoire. Fais un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Vous ferez les chérubins sortant du propitiatoire à ses 2 extrémités. Les chérubins étendront leurs ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire et se faisant face l'un à l'autre. Les chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. C'est là que je me rencontrerai avec toi, du haut du propitiatoire, entre les 2 chérubins placés sur l'arche du témoignage, je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. » Alors, on voit dans le texte, la division est assez évidente. Du verset 10 au verset 16, le Seigneur donne la description de l'arche de l'Alliance. Du verset 17 au verset 21, le Seigneur donne la description du propitiatoire. Et le verset 22, le Seigneur nous dit que c'est à cet endroit-là qu'il va rencontrer, qu'il va être un lieu de rencontre entre lui et son peuple, et que ça va être l'endroit aussi où il va donner ses ordres pour les enfants d'Israël. Alors ici, dans les Écritures, on peut parler d'une loi. Dans les Écritures, on appelle ça la loi de la première mention. Chaque fois qu'un mot est introduit pour la première fois dans les Saintes Écritures, souvent c'est un endroit où le Seigneur va développer en germe l'idée de tout ce que ça contient. Alors ici, c'est la première fois qu'on rencontre le mot « Arche de l'Alliance ». Donc l'Arche de l'Alliance a été bâtie par Moïse lui-même. Si on tourne dans Deutéronome 10, Deutéronome 10, verset 1 à 5. Deutéronome 10, verset 1 à 5. En ce temps-là, l'Éternel me dit, « Taille deux tables de pierre comme les premières et monte vers moi sur la montagne. Tu feras aussi une arche de bois. J'écrirai sur ces tables les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées et tu les mettras dans l'arche. Je fis une arche de bois d'acacia. Je taillai deux tables de pierre comme les premières et je montai sur la montagne les deux tables dans ma main. L'Éternel écrivit sur les tables ce qui avait été écrit sur les premières, les 10 paroles qu'il vous avait dites sur la montagne du milieu du feu le jour de l'assemblée, et l'Éternel me les donna. Je retournai et je descendis de la montagne, je mis les tables dans l'arche que j'avais faite et elles restèrent là comme l'Éternel me l'avait ordonné. » Alors, une des choses qu'on apprend, c'est que l'Éternel, dans les chapitres, on avait parlé la semaine dernière que le chapitre sur le tabernacle, ça va de 25 à 40, et qu'il y avait carrément 3 sections dans cette partie-là. On se rappelle que du chapitre 25 aller jusqu'au chapitre 31, ce n'est pas la construction du tabernacle, c'est l'ordre. C'est le Seigneur qui donne à Moïse la description de ce qu'il veut que ce soit. Et dans le chapitre 35 à 40, il y a l'exécution. C'est-à-dire que là, le peuple, avec les personnes que le Seigneur va nommer, il va y avoir la construction de ce que le Seigneur a décidé. C'est important de voir qu'entre les deux, parce que de 25 à 31, entre chapitre 32, 33 et 34, c'est quand le peuple, quand Moïse était sur la montagne, le peuple a tombé dans l'idolâtrie, se sont construits un veau d'or, et là, quand Moïse est descendu de la montagne, qu'est-ce qu'il a vu? Le peuple emporté dans un état de péché épouvantable, et là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a brisé les tables de la loi. Il les a cassés, il a fait, on pourrait dire, une crise devant le peuple. Il a vraiment démontré qu'ils étaient indignes de ce qu'ils avaient reçu du Seigneur. Le Seigneur leur a demandé de remonter sur la montagne. Et quand il est remonté sur la montagne, il lui a redonné les deux tables de la loi. Et lui a dit où les mettre. Et à l'endroit où il les a mis, c'était dans l'arche de l'Alliance. C'est ce que nous allons regarder ce matin. Alors l'idée est assez simple à comprendre. C'est que la première fois que le Seigneur a donné le décalogue comme code de conduite à son peuple, ils ont été absolument incapables de l'accomplir sous aucune forme. C'est la raison pour laquelle le Seigneur, sur la montagne, les a redonnés à Moïse de manière à ce qu'il les mette dans l'arche de l'Alliance, qui est une représentation symbolique de Christ. Alors, les tables de l'Alliance étaient placées en Christ. Alors, lui a accompli à la perfection le décalogue, la loi, et il l'a accompli à la place de ses élus. Très important de saisir cette nuance-là dans la lecture du chapitre 25 à 40 du tabernacle, si on veut vraiment voir. Ce qui est intéressant aussi quand on fait une étude du tabernacle, c'est qu'il y a deux manières de le faire. On peut le faire de façon thématique, alors on peut prendre des diapositives comme ça, ils vous montrent les différentes parties sans suivre nécessairement l'ordre des Écritures. La première fois que j'ai fait cette étude-là, j'avais la tentation d'y aller thématiquement. J'avoue que c'est peut-être plus facile d'expliquer de cette façon-là. Mais je me suis rendu compte, je me suis dit non, ce que je vais faire, je vais suivre l'ordre des Écritures et ce qu'on a fait depuis qu'on a commencé. Donc, ici, à partir du verset 10 jusqu'au verset 22, on va avoir le début de la description de ce que le Seigneur voulait pour construire son tabernacle. Et vous remarquerez que l'endroit où il commence, c'est dans le Saint des Saints. Et si vous vous souvenez un petit peu de ce qu'on a vu la semaine dernière, le tabernacle était construit en forme rectangulaire. Les deux tiers avant, c'était le Saint. Et le Saint était séparé du Saint des Saints par un rideau, et le souverain sacrificateur ne pouvait entrer là qu'une seule fois par année pour aller verser le sang sur le propitiatoire, donc cet endroit-là. qui est très symbolique aussi de l'œuvre et de la personne de Christ. On verra ça un petit peu plus en détail dans ça. Alors, l'ange de l'Alliance et le propitiatoire sont des symboles de la personne même de Christ, soit sa présence parmi son peuple, la bénédiction de son alliance, et ça constituait le plus sacré et le plus glorieux instrument du sanctuaire. Et c'est significatif qu'il commence par là. Moi, je vois à l'intérieur de ça, Dieu est en train de démontrer sa souveraineté dans le sens qu'il commence par le plus précieux et il va s'en aller vers la porte d'entrée dans le parvis. Alors que quand les hommes commencent à construire, quand Moïse commence à construire, il va dans l'ordre inverse. Il commence par la porte, il passe par qu'est-ce qu'il y avait entre l'autel du sacrifice, l'autel où il se lavait, tout ça avant de rentrer dans le saint et s'en aller dans le saint des saints. Quand on regarde ça dans les Écritures, on est renversé. Dieu commence par le saint des saints et il s'en va vers la porte, alors que quand les hommes construisent, ils partent de la porte et ils s'en viennent vers le saint des saints. Il y a une image glorieuse, merveilleuse là-dedans. On voit la volonté de la souveraineté de Dieu. Et dans l'autre, on voit que le côté. Alors, on pourrait voir l'équivalent de ça dans le livre d'Éphésiens, où la volonté de Dieu commence par en haut et se rend vers l'homme. Et on pourrait prendre l'équivalent de ça dans le livre des Romains, où c'est l'homme qui s'en va vers Dieu. C'est vraiment intéressant de noter ça. Et c'est juste quand on fait une étude à partir des versets, on suit l'ordre des Écritures dans le développement du tabernacle, qu'on se rend compte de ces choses-là. Et je me souviens, la première fois que j'ai découvert ça, j'ai dit, « Wow! C'est spécial! Si j'avais fait thématique, j'aurais manqué ça. » Et c'était vraiment intéressant de noter ça. Dans 2 Chroniques, chapitre 8, verset 11, on lit, « Salomon fit monter la fille de Pharaon de la cité de David dans la maison qu'il lui avait bâtie. Car il dit, ma femme n'habitera pas dans la maison de David, roi d'Israël, parce que les lieux où est entrée l'arche de l'Éternel sont saints. » Si on veut faire une étude du tabernacle et qu'on veut apprécier un peu le contenu de tout ce qu'il y a là-dedans, on est obligé de tenir compte de ce qu'on pourrait appeler la numérologie biblique. Dans les Écritures, les nombres ont une signification. J'ai trouvé sur Internet, pour ceux qui lisent l'anglais qui seraient intéressés, un livre écrit par un pasteur anglais du 19e siècle qui a fait une étude exhaustive des nombres à travers les Écritures pour essayer de voir s'il y avait des significations qui sont rattachées aux différents nombres dans les Écritures. 1, 2, 3, 7, 10, 100, 1000. Et ça a toutes des significations. C'est très intéressant de ce livre-là. Il doit avoir une couple de 100 pages. Et il prend chaque numéro et il sort des chiffres, des écritures pour toutes les fois où on parle de 1, toutes les fois où on parle de 2, toutes les fois où on parle de 3. Et là, il essaie de regarder s'il y a des liens à travers de ça. Il y en a, ils sont plus qu'évidents. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé voir dans son livre. Et j'ai regardé les différentes significations qui, normalement, seraient très raisonnables à donner aux chiffres dans les Écritures. Et on va voir que pour interpréter ce qu'on veut voir ce matin et le reste de l'étude qu'on va faire sur le tabernacle, c'est absolument nécessaire. Par exemple, qui n'a pas déjà entendu parler que le chiffre 7, c'est le chiffre divin, le chiffre de la perfection? Mais il y a plein de choses comme ça. Et si on étudie le tabernacle et qu'on ne tient pas compte de ce qu'on pourrait appeler numérologie biblique, on manque à quelque part des très beaux symboles qui sont là parce qu'on sait que c'est l'Esprit de Dieu qui a donné la description du tabernacle et les mesures, 2 coudées et demie, 1 coudée et demie, 1 coudée et demie. On peut voir juste, bon, ben il a dit ça, ça veut dire quoi ça? Mais c'est ça qu'il faut s'arrêter. Les Écritures, souvent, on les lit rapidement. On ne prend pas la peine d'aller fouiller un peu dans les commentaires ou ailleurs des personnes qui ont déjà prêché sur le sujet, des fois pour découvrir des aspects qui sont extrêmement riches. J'en ai sorti 12 chiffres qui sont importants en relation avec le tabernacle. C'est sûr que si vous voulez avoir toute l'étude du pasteur qui a fait l'étude sur les chiffres dans les Écritures, vous m'avez demandé, vous avez juste à me le demander, c'est gratuit, c'est téléchargeable sur Internet. Alors, le chiffre 1, je pense que c'est assez... Moi et le Père, nous sommes un, l'unité. Je pense qu'on peut résumer avec un seul mot. Le chiffre 1 dans les Écritures représente l'unité. Le chiffre 2, Jésus, la deuxième personne de la Trinité, le Fils, le témoignage. La 3, la perfection divine, la Trinité, trois personnes en Dieu, trois personnes parfaites. 4, on parle de la création de la terre. Souvent, on va parler des quatre coins de la terre. Souvent, le chiffre 4 est souvent en relation avec la création ou la terre comme telle. 5, le chiffre de la grâce. Quand vous prenez une étude des Écritures et vous regardez, souvent le chiffre 5 est associé avec un aspect ou l'autre de la grâce de Dieu envers les élus. 6, on se souvient tous de l'Apocalypse, quand il était question du chiffre de la bête, 666. Le chiffre 6, c'est l'homme et ses imperfections au pluriel. Donc, trois fois le chiffre 6, trois fois le chiffre de l'homme dans ses imperfections. Et quand on regarde 6, il y a des centaines, il y a des dizaines, il y a des unités. C'est vraiment le chiffre le plus significatif, le plus symbolique qui représente l'homme avec toutes ses imperfections. Et on pourrait en nommer une liste presque infinie. 7, on le sait, on l'a souvent entendu dans les prédications, la perfection spirituelle ou la plénitude. 10, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas rien pour 8, pour 9, là, j'ai choisi les plus importantes qui ont un rapport avec le tabernacle. 10, la perfection de l'ordre divin. 12, la perfection, mais de l'ordre dans l'expression de Dieu avec le gouvernement de la terre. Quand on parle souvent les 12 apôtres, et il y a plein de chiffres 12 dans les Écritures. 13, la rébellion. Si vous prenez l'ensemble de ce qui se passe à la terre, dans les Écritures, surtout dans le livre de la Genèse, vous allez voir que le chiffre 13 est très souvent mentionné et c'est très souvent en rapport avec la rébellion de l'homme envers l'autorité divine, ou même l'autorité de l'homme. 14, c'est-à-dire 40, le chiffre de l'épreuve, 40 jours dans le désert, et il y a beaucoup de chiffres 40 dans les Écritures, énormément. Alors, ce qu'a fait le monsieur dont je vous parlais tantôt, c'est qu'il a choisi toutes les 40, il les a toutes sorties, puis il a regardé s'il y avait du symbolisme à travers ça, et c'est extrêmement intéressant à étudier, à regarder. Ça vient compléter, ça nous donne un autre outil pour mieux interpréter la parole de Dieu. Et l'épreuve et la probation. Souvent, un temps d'épreuve, elle va durer 40 jours. Et la 50, c'est vraiment la délivrance, le jubilé. L'exemple du jubilé, après 7 fois une période de 7 ans, de sabbat, il y avait l'année, la 50e année, était l'année où le Seigneur venait délivrer son peuple qui s'était accumulé d'indettes. Au bout de 50 ans, c'est comme si le Seigneur voulait remettre les livres à zéro. Quelle sagesse! Quelle sagesse! Si les Juifs suivaient ça, ça venait au bout de 50 ans, tous les Juifs qui s'étaient endettés les uns envers les autres, au jubilé, ça tombait à zéro. Et on pourrait dire bien des choses sur les chiffres, mais je pense que c'est suffisant. On va garder ceux-là à l'esprit, et quand on va regarder les dimensions et les différentes facettes du tabernacle, on va voir que c'est très intéressant. Quand on regarde... On va regarder où était situé l'Arche de l'Alliance et... ferme la lumière, s'il te plaît. Ça me passe au-dessus de la tête. Veux-tu que je fasse les trois premiers? Ouais, juste les trois premiers. Bon, on voit ici le tabernacle, il n'y avait pas les tapis sur le dessus. Les tapis n'étaient pas là. C'était simplement une façon de nous faire voir de quelle façon c'était construit. Alors ici, à l'intérieur, c'est vraiment le tabernacle. À l'intérieur, la première partie ici, là, l'avant, ici c'était la porte pour entrer, l'avant était le saint. Dans le saint, il y avait quoi? On se souvient la semaine dernière, il y avait le chandelier, il y avait l'autel des parfums en avant de la porte, et sur le côté droit, il y avait les pains de proposition. Ici, le rideau ici qui sépare le saint du saint des saints, les sacrificateurs pouvaient venir en tout temps dans cette partie-ci, il fallait qu'ils viennent quotidiennement. Pour aller dans la partie, le saint des saints, qui est la partie ici en arrière, le souverain sacrificateur, c'était pas tous les sacrificateurs qui pouvaient rentrer, il y avait seulement le souverain sacrificateur. Et qui appelle-t-on le souverain sacrificateur dans le Nouveau Testament? La personne de Jésus. Alors ici, dans cette partie-ci, c'était dans cet endroit-là où on trouvait l'Arche de l'Alliance et l'Arche de l'Alliance et le propitiatoire. Alors, je vais vous montrer la deuxième. Bon, ici, on a vraiment les... Tout à l'heure, on a parlé de deux coudées et demie de large, une coudée et demie, c'est-à-dire une coudée et demie de large, deux coudées et demie de long, une coudée et demie de hauteur. On a parlé aussi des anneaux. Il y avait quatre anneaux, un là, et les deux autres de chaque côté. On parlait de barres qui devaient être de bois, recouverts d'or, et ils se devaient d'être insérés dans les anneaux et ils se devaient de demeurer là. On va voir qu'il y a un symbolisme rattaché à ça. On le regardera tantôt. On a parlé aussi qu'il y avait un couronnement d'or, chaque côté au-dessus. Ça, on va voir que c'est à partir du propitiatoire. Et quand on parle du propitiatoire, le couvert ici, qui était le propitiatoire, c'est un couvert, c'est un coffre avec un couvert par-dessus. Le couvert ici était d'or pur. Alors, l'or pur, ça représente pour nous, les humains, ce qu'il y a de plus riche, ce qu'il y a de plus, ce qu'il y a de plus de valeur, et ça représente la divinité de Christ, l'or pur. Et ici, il y avait les deux chérubins, et comme on voit, ils étaient un face à l'autre, et ils avaient la tête regardant vers le propitiatoire. Et ici, le coffre, il était fait en bois d'acacia. On va regarder aussi le symbolisme de ça. Et le coffre était recouvert d'or à l'extérieur et à l'intérieur. Mais le coffre lui-même n'était pas de l'or pur. C'était du bois d'acacia recouvert à l'extérieur et à l'intérieur d'or pur. Maintenant, tu veux me montrer la troisième? Bon, ici, on a le couvercle qui est enlevé. Alors, on voit qu'il y avait une bordure. Ça vous fait-tu penser à une couronne? Oui, ça fait penser à une couronne. Alors, c'est la divinité, la royauté de Christ. Ici, on la voit de façon que le coffre était... On le voit à l'intérieur, il y avait de la place pour mettre des choses. Et les trois choses qu'il y avait à l'intérieur, il y avait quoi? Les deux tables du décalogue que les êtres humains avaient brisées et que, symboliquement, Dieu voulait que les tables de la loi soient encore le critère pour déterminer la justice pour pouvoir comparaître devant lui. Deux tables de la loi. Il avait dit à Moïse, tu les prendras et tu les mettras à l'intérieur. Ici, sont sortis comme pour montrer qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur. Ici, il y avait le fameux pot de manne. Le pot de manne, on sait, on se souvient dans l'Livre des Nombres, c'est la nourriture que Dieu avait donnée du ciel. Le Seigneur a dit dans le Nouveau Testament, « Je suis le pain de vie. » Ici, on a sa justice parfaite. Et il y avait ici le fameux bâton, on le voit plus ou moins bien, là, qui avait fleuri. C'était un bâton de bois et il y avait eu obstination. C'est qui, et Araon, le Seigneur avait dit, mettez les verges à un tel endroit et celle qui fleurira, c'est celle dont j'approuve. Et la verge d'Araon représente la résurrection. La résurrection de Christ qui, à partir d'un bois, a donné des fleurs. Alors, c'est intéressant de voir que toutes ces choses-là étaient à l'intérieur de la partie qui représente l'humanité de Christ. La nourriture, la parfaite justice, la résurrection à l'intérieur du corps. Et on mettait le propitiatoire par-dessus. Alors, ici, la partie, l'arche de l'Alliance, ça représentait l'humanité de Christ, parce que le bois d'acacia, on viendra tantôt donner le symbolisme de tout ça. Et sur le dessus, quand on mettait le couvert par-dessus, c'est-à-dire le propitiatoire, là où le souverain sacrificateur rentrait une fois là pour verser le sang des victimes qu'il avait égorgées, il fallait qu'il entre là avec le sang, verser le sang sur le propitiatoire, et on sait que toutes ces choses-là représentent Christ. Alors, quand on met le couvert par-dessus, qui était d'or pur, ça représentait la parfaite divinité de Christ. Quand on met l'un sur l'autre, les distances étaient exactes et ça correspondait, on pouvait mettre le couvert dessus. OK, c'est correct, on va revenir au texte. Je vais allumer la lumière. Arrête. Ah ben arrête le son. Arrête le moteur. Pourquoi tu ne peux pas l'arrêter? OK. Ah, il va, pas de là. OK. Ça fait que si on s'en va dans Hébreu 9 maintenant, on va y aller ensemble. Hébreu 9, verset 1 à 15. Hébreu, chapitre 9, verset 1 à 15. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Alors, on parle de ça ici, là. On parle du sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit dans la partie antérieure, la partie arrière, appelée le lieu saint, était le chandelier, la table des pains de proposition et la table des parfums. Derrière le second voile, là, si on veut se demander ce qu'on parle de ce matin, l'arche de l'Alliance et le couvert, le propitiatoire, où c'était situé dans la partie arrière qu'on a regardé tantôt, donc dans le Saint des Saints. C'est-à-dire, derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'Alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, on vient de voir ça, la verge d'Araon qui avait fleuri et les tables de l'Alliance, le décalogue, les 10 commandements. Verset 5, au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Alors l'auteur du livre des Hébreux, il fait référence à ces choses-là, prenant pour acquis que ceux à qui il s'adressait savaient déjà toutes ces choses-là. Il leur dit, on ne reviendra pas en détail là-dessus, vous êtes censés savoir ces choses-là. Verset 6, « Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. » C'est ce qu'on disait tantôt. Les sacrificateurs avaient le devoir, avaient le commandement de la part de Dieu qu'ils pouvaient entrer dans la partie antérieure, la partie arrière du tabernacle, à tous les jours. Verset 7. Et dans le second, le souverain sacrificateur, voyez-vous, ce n'est plus le sacrificateur qui peut rentrer là n'importe quel temps. C'était juste le souverain sacrificateur, le chef des sacrificateurs. Et dans les Saintes Écritures, on sait que Jésus est le souverain sacrificateur. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur, seul, il n'y a rien que lui qui pouvait rentrer là, pas d'autre que lui, entre une fois par an, non sans y porter du sang, qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Donc, quand il rentrait là, le but de ça, c'était de faire couvrir ses péchés personnels et les péchés du peuple d'Israël, et il devait le faire une fois par an. Ça couvrait leurs péchés. 8, verset 8, « Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. » Quand on revient à l'époque de Christ, quand Christ est venu sur la terre, ce n'était plus le tabernacle tel que je viens de le montrer qui existait. Il avait été construit le temple qui était à Jérusalem. Cependant, les éléments qui étaient là étaient dans le temple avec à peu près les mêmes proportions. Et entre le Saint et le Saint des Saints, il y avait un énorme rideau. Semble-t-il que ça avait quelque chose comme un pouce d'épais. Quand Christ est mort, ça dit qu'au moment même où il est mort, le voile du temple, le rideau d'un pouce d'épais qui séparait le Saint du Saint des Saints, s'est déchiré du haut en bas. Qu'est-ce que ça l'indiquait? Ça l'indiquait que par la mort de Christ, ce qui était le sacrificateur pour entrer dans le Saint des Saints, dans le Saint, maintenant, par la mort de Christ, il pouvait entrer dans la présence même de Dieu, ce qu'il ne pouvait pas faire avant la mort de Christ. Très important de voir tous ces symbolismes-là. Verset 9. C'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation, verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme. La personne même de Jésus-Christ n'a pas été construite de main d'homme. Alors, il parlait de sa propre personne ici. C'est-à-dire qu'il n'est pas de cette création. Et il est entré, en parlant de Christ, une fois pour toutes dans le saint, dans le lieu très saint. Quel verset d'une puissance extraordinaire pour venir défaire ce que les catholiques font. Une fois pour toutes, tu ne reproduis pas le sacrifice de Christ. Les Écritures nous disent que ça a été fait une fois pour toutes. Dans le, il est entré une fois, verset 12, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Non avec le sang des boucs et des veaux, qui était le sang, le souverain sacrificateur des hommes d'Israël, lui, il rentrait avec le sang des animaux. Ce que les Écritures sont en train de nous enseigner, c'est quand le Christ est entré, c'est pas avec le sang des animaux, c'est avec son propre sang, qui lui n'était teinté d'aucune façon par le péché. Un sang impeccable, qui n'avait pas été souillé par le péché. Ayant obtenu, et les mots sont très forts, une rédemption éternelle. Ce n'était pas quelque chose qui était à se reproduire une fois par année à partir du moment où Christ a fait le travail de sacrificateur, de souverain sacrificateur. Ça a été fait une fois pour toutes et c'était, les résultats étaient éternels. Verset 13, car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Très important de saisir ça. À partir du moment où Christ est venu, il y avait quelque chose qui s'était produit, qui était nouveau. Toutes ces histoires-là que les Israélites faisaient dans le désert, maintenant, il dit, c'est fini. Vous n'avez plus besoin de faire ça. Parce que le souverain sacrificateur est venu, il a obtenu la rédemption éternelle une fois pour toutes. Et c'est pour, verset 15, c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur avait été promis. Très important de, quand on lit les Écritures, quelqu'un qui essaie d'étudier le livre des Hébreux, sans avoir déjà étudié au moins minimalement le livre d'Exode, chapitre 25 à 40, et qui n'a pas non plus étudié le livre des Lévitiques où on présente les différentes formes d'offrandes, j'avoue que la première fois que j'ai lu le livre d'Hébreux, ça m'a passé 6 pieds par-dessus la tête, et la première fois que j'ai lu le livre de l'Exode, j'ai juste lu le développement de tel que c'est écrit là, ça m'a passé 25 pieds par-dessus la tête. Parce que je comprenais vraiment pas que ça avait tous des rapports. Les Écritures, c'est un tout, c'est uni. Et quand on veut comprendre le livre des Hébreux, c'est sûr que quand on prend tout ça et qu'on lit Hébreux et qu'on connaît le tabernacle avec tout son symbolisme et qu'on connaît les différentes sortes de sacrifices qui sont présentés, étudiés, démontrés dans le livre de Lévitique, là, ça prend toute une autre couleur, ça devient infiniment intéressant. Alors, la première question qu'on se pose par rapport à aujourd'hui, où l'Arche de l'Alliance et le propitiatoire étaient-elles situées? L'Arche de l'Alliance et le propitiatoire étaient situés dans le lieu très saint qu'on appelait le Saint des Saints. Ils ont une signification très importante parce que ce coffre d'or avec le propitiatoire, donc l'Arche de l'Alliance, c'est le coffre. Le propitiatoire, c'est le couvert. On se souvient, le dessus, c'est représente la divinité de Christ. Le dessous, l'or recouvert, le bois d'acacia recouvert d'or représente l'humanité de Christ. Les deux, un sur l'autre, ça fitait parfaitement. L'homme-Dieu, la seule personne qui a une personne, deux natures, Jésus-Christ. Ainsi que son contenu, il y avait un contenu à l'intérieur de ça, représente la personne de Christ, et c'est d'une image, d'une beauté extraordinaire quand on se met à mettre les choses en place. La manne qui était là, dans un pot d'or. Il y avait les deux tables de la loi, et il y avait l'Arche de l'Alliance. Et qui venait toutes représenter l'œuvre de Christ. Si aujourd'hui on peut dire qu'on est juste, les chrétiens sont justes, les chrétiens, c'est parce que Jésus-Christ a accompli à notre place les exigences que Dieu avait envers chacun de nous. Il demandait pour qu'on vive en sa présence, qu'on ait obéi à chacun des commandements à la perfection sans avoir manqué une seule fois. Les critères étaient élevés, pas à peu près. La preuve, c'est que quand le Seigneur a donné les deux tables de la loi au peuple d'Israël en bas, qu'est-ce qu'ils ont fait avec? Ils l'ont souillé. Moïse n'était pas aussi remonté sa montagne, qui ont fait un immense party. C'était, on s'amuse, on boit, puis on chante des chants à répondre, puis c'était le gros party, là. Dégueulasse. Le péché régnait, là. Qu'est-ce que ça venait montrer? C'est que les exigences de Dieu, quand on les présente au peuple pour leur obéir, les êtres humains que nous sommes, des pécheurs, nous ne sommes pas capables de les accomplir à la perfection. Cependant, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont plus leur place dans la vie du croyant comme critère, comme objectif. On se doit d'essayer d'obéir, mais on n'y arrivera jamais. Et pourquoi Dieu peut-il nous dire qu'on est déclaré juste? C'est parce que c'est lui qui l'a fait à notre place. Et cette partie-là de l'Arche de l'Alliance et le propitiatoire viennent montrer que, dans le fond, c'est Christ qui accomplit les choses à notre place. Le lieu très saint n'est pas mentionné sans motif 14 fois dans la parole de Dieu. Ça suggère un témoignage parfait. Dieu se manifestait d'une manière particulière à son peuple dans ce lieu très saint, et cette manifestation constitue un message d'une portée considérable. Dans la retraite silencieuse du sanctuaire le plus intérieur, dans le lieu très saint, se trouvait l'Arche de l'Éternel. Le 10e jour du 7e mois était la date du grand jour des propitiations. Lévitique 23, versets 27 et 28. Le dixième jour du septième mois sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel les sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel, votre Dieu. C'était pour le peuple d'Israël le jour le plus important de l'année. D'année en année, le grand jour des propitiations se déroulait de la même façon. Dieu avait appelé le souverain sacrificateur Aaron et lui avait confié un service très saint. Il devait se purifier dans l'eau, enlever ses vêtements de cérémonie habituels et se revêtir entièrement de lin. Puis, il devait égorger certaines victimes, pour lui-même et pour sa maison. Il devait offrir un jeune taureau en sacrifice pour le péché et un bélier en holocauste. Il commençait par égorger le taureau. Il devait avant tout faire propitiation pour ses propres péchés, selon le commandement de Dieu. Intéressant ce mot-là, propitiation, si on l'associe avec le mot propitiatoire, deux mots qui viennent de la même racine. Le mot propitiatoire, quand vous regardez dans la version Louis II, je pense qu'il apparaît uniquement une fois. Mais quand on regarde dans le grec, il revient au moins à deux reprises dans le Nouveau Testament. Le mot propitiatoire veut dire détourner la colère de Dieu. C'est ça qui est l'essence du mot propitiatoire. Ça veut dire que par ce moyen-là, Dieu détournait sa colère des pécheurs. Et quand on regarde, tout à l'heure, on ira voir le verset du Nouveau Testament qui parle de ça. J'étais rendu. Aaron prenait d'abord un encensoir de charbon de feu. Alors, il prenait probablement ça dans la cour extérieure où il y avait l'autel des holocaustes et il y avait des charbons de feu. Dessus l'autel des holocaustes, qui est devant l'Éternel, où le feu brûlait continuellement. Lévitique 6, versets 5 et 6. Sur les charbons de feu, il mettait deux poignées d'encens de drogue odoriférante, pulvérisée, que les flammes consumaient rapidement. Le souverain sacrificateur était ainsi enveloppé d'une nuée d'encens pendant qu'il se tenait dans les lieux très saints. S'il n'avait pas fait ça, il rentrait dans le lieu très saint et s'il n'avait pas eu ce parfum-là, il était terrassé, mort. Fallait qu'il obéisse à ce que le Seigneur disait. N'oublions pas qu'Aaron allait maintenant entrer dans la très sainte présence de Dieu. Puissent les paroles qui suivent se graver au plus profond de nous-mêmes. Ça disait qu'il n'entre pas en tout temps dans le lieu saint, au-dedans du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, afin qu'il ne meure pas, car j'apparais dans la nuée sur le propitiatoire. Lévitique 16, verset 2. Alors, pour ça, d'ailleurs, je vous disais, Lévitique, Exode, Hébreu. Si on veut comprendre, il faut étudier les trois. Puis Aaron s'approchait à nouveau de l'arche de l'Alliance, portant dans une coupe le sang de la victime. Il plongeait son doigt dans le sang et en faisait aspersion sur le devant du propitiatoire entre les chérubins dont les yeux, pour ainsi dire, s'abaissaient dès lors sur le sang expiatoire. À cet instant s'opérait un changement merveilleux, unique. L'arche de l'Alliance avec le propitiatoire et les chérubins était le trône du Dieu vivant, du juge de toute la terre, comme on lit dans Exode, dans Genèse 18, verset 25. Sa justice inflexible se devait d'exiger un jugement terrible pour tout pécheur. Le jugement mérité, la mort, menaçait le coupable. Cet affreux sort ne pouvait être détourné que par une seule chose. Le sang d'une victime pure, d'une créature innocente qui devait mourir à la place du pécheur, ce sang seul faisait de ce tribunal un trône de grâce. Voyez-vous, c'était un trône de jugement, le propitiatoire, et qui, à cause du sang, se transformait en un trône de grâce. En un trône de grâce. Merveilleux. Donc, on va reprendre un peu l'Arche de l'Alliance. Donc, dans le fond, le but de ce que je viens de vous donner, c'est où c'était situé, puis avec quoi ça se reliait dans le livre de l'Exode, et avec quoi ça se reliait dans le livre des Hébreux. Maintenant, on va parler de la première chose, le coffre lui-même, dans le verset 10. On va le reprendre. Dans le verset 10, « Ils feront... » Là, c'est Dieu qui parle, qui donne ses ordres à Moïse, et il leur dit comment il doit construire le tabernacle. Ils feront une arche de bois, donc le fameux coffre de bois, en bois d'acacia. On sait que le bois d'acacia, c'est un bois d'une grande préciosité et qui est incorruptible. Qu'on peut prendre n'importe quelle sorte de bois, en général, les bois sont corruptibles. Du mildiou, là, du... Allez, go. Attention, vous savez ce que je veux dire? La moisissure, etc. Alors, le bois, qui n'est pas un bois très dur, c'est un bois très dur, le bois d'acacia, c'est un bois très... d'une grande, grande valeur. Alors, ça venait représenter l'humanité de Christ. Et là, il nous donne comment le coffre devait être, ses dimensions. 2 coudées et demie longueur. Sa longueur sera 2 coudées et demie. Sa largeur, 1 coudée et demie. Sa hauteur, 1 coudée et demie. Une coudée, c'est à peu près 18 pouces. C'était la coudée du roi de l'époque. On mesurait leur coude et c'était la coudée royale. Il y a différentes sortes de coudées dans les Écritures. En tout cas, c'était à peu près, on pourrait dire, 18 pouces. Ça fait que quand on parle de 2 coudées et demie, ça veut dire, ça avait à peu près 5 pieds, peut-être, par 1 coudée et demie, ça avait peut-être quoi 27 pouces. Alors, on a une idée, la grosseur, puis 1 coudée et demie, ça avait à peu près ça, 27 pouces de haut. Alors, c'était comme un coffre d'or. Et ça nous dit, tu la couvriras d'or pur. Alors, on sait qu'elle est construite, l'intérieur de la base du coffre était en bois. Il était couvert d'or à l'intérieur et à l'extérieur. Il fallait que ce soit de l'or pur, il fallait qu'il y ait 4 anneaux, et il fallait qu'il y ait 2 barres de bois aussi, insérées pour le porter, et ça représente l'humanité de Christ. Cet objet merveilleux du coffre, dans le lieu très saint, réclame une attention particulière de notre part. Déjà, le fait que la parole de Dieu mentionne l'arche environ 190 fois fait ressortir son importance. Si les Écritures parlent de quelque chose 190 fois, c'est parce qu'il y a une très grande importance attachée à ça. Elle porte différents noms correspondant à sa valeur incomparable, son but et son emploi. Dans Josué 3:11, on dit « l'arche du Seigneur de toute la terre ». Dans Exode 25, vers 22, on dit « l'arche du témoignage ». Dans 2 Chroniques 35, verset 3, on parle de « l'arche sainte », ainsi que « l'arche de ta force » dans le psaume 132, verset 8. Alors, quand on rencontre le mot « arche » dans tous ces différents endroits-là, il y a des noms différents, cependant, on fait référence à la même chose. Le Dieu vivant a lié son saint nom à cette arche, donnant en même temps à connaître sa sainte volonté, sa force et sa gloire. Elle est le trône de Dieu. Donc, les matériaux, le bois d'acacia et l'or. Le coffre était de bois d'acacia, reconnu pour sa préciosité et son incorruptibilité. Le bois d'acacia représente l'humanité de Jésus-Christ. On sait que le bois, on trouve ça sur la terre normalement. Donc, son humanité qui est à la fois merveilleuse, unique, parfaite et incorruptible. On sait que Jésus, quand il est venu au monde, n'avait pas hérité de la nature pécheresse de l'homme, d'aucune façon. Il n'a jamais péché au cours de toute sa vie, ni en pensée, ni en parole, ni en action, ni en omission, ni en aucune quelque forme de péché que ce soit, secret ou non. Parfaite nature, donc le bois d'acacia venait représenter son incorruptibilité. L'arche était recouverte d'or pur intérieurement et extérieurement. L'or symbolise la divinité glorieuse de Christ. Intéressant de noter ces choses-là. Les dimensions du coffre, 2 coudées et demie de largeur, 2 coudées et demie de longueur, 1 coudée et demie de largeur, 1 coudée et demie de hauteur. Il y avait une bordure d'or dans le verset 11. Tu la couvriras d'or, tu la couvriras d'or en dedans et en dehors, et tu y feras une bordure d'or tout autour. On a vu tantôt la forme qui ressemblait à une couronne. La gloire de Christ était exprimée par le couronnement d'or qui ornait l'arche tout autour. Le symbolisme est saisissant, la royauté de Christ. Les 4 anneaux, verset 12. Tu fondras pour elle 4 anneaux d'or et tu les mettras à ses 4 coins, 2 anneaux d'un côté, 2 anneaux de l'autre côté. On a vu tantôt les anneaux qui étaient chaque côté et ils avaient pour but de faire pouvoir entrer les barres. Alors, les anneaux symbolisent l'union. Quand on se marie, quand on se met au doigt un anneau, c'est le symbole de l'union. Ça marque l'appartenance des époux l'un à l'autre. Et ici, les anneaux d'or parlent de l'amour divin envers ses élus. Il y avait 2 barres, versets 13 à 15. Tu feras des barres de bois d'acacia, tu les recouvriras d'or. Verset 14, tu passeras les barres dans les anneaux sur les côtés de l'arche pour qu'elles servent à porter l'arche. Les barres resteront dans les anneaux de l'arche et n'en seront point retirées. Alors que les matériaux, le bois d'acacia recouvert d'or, parfaite humanité, parfaite divinité dans la même personne, leur situation et leur fonction, elles étaient insérées dans les anneaux pour le transport. Les 2 barres symbolisent que Jésus avait été décrété le médiateur d'une nouvelle alliance, en Hébreux 9.15, et le garant d'une alliance autant meilleure, dans Hébreux 7.22. Les barres parlent aussi du voyage dans le désert. Dieu était avec son peuple en route. Mais les barres nous parlent aussi de notre tâche. Les Lévites portaient ces précieux ustensiles qui parlent de Christ. Est-ce que les barres sont sur nos épaules, indiquant que nous devons partager le trésor que nous portons? À le fond, l'idée des barres, c'est que le peuple portait sur leurs épaules le précieux trésor qu'ils avaient. Dans quel but? Dans le but que les gens le voient. Dans le but de partager. Dans le fond, nous, quand on a reçu par grâce d'être sauvés, on ne peut pas s'asseoir dessus. On ne peut pas partager. On se doit de montrer au monde le plus qu'on peut la gloire de Christ en la manifestant, en la portant sur nos épaules, la personne de Christ. Leur permanence, verset 15. Elle ne devait pas être retirée des anneaux. L'union était permanente. On n'enlevait pas ça. L'union de Dieu, Jésus, dans son humanité et dans sa divinité, nous, on porte et ça ne doit pas être sorti. Le symbolisme est très fort. Ceci nous enseigne que lorsque Christ et son épouse sont unis, le péché et la mort sont vaincus et le Saint-Esprit peut rester dans ce corps en permanence. Son contenu, verset 16, tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Ici, j'ai pris la peine de vous les donner quand même. On va revenir plus en détail sur ce que contenait. On l'a vu tantôt sur l'image. Dans Hébreux 9.4, ça dit « Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums, l'arche de l'Alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri, les tables de l'Alliance. » On l'a parlé un peu tout à l'heure. Et on va revenir plus en détail quand on va arriver dans la section où on parle de ces choses-là. On reviendra beaucoup plus en détail. Donc, je pense que c'est facile de voir un peu le symbolisme rapidement comme ça. La manne, Jésus dit « Je suis le pain de vie ». La verge d'Aaron qui représente la résurrection, à la fois sa propre résurrection et à la fois notre résurrection. et les tables de l'Alliance, qui sont les 10 commandements, ou les deux tables de la loi. Donc, dans la première table, t'avais nos devoirs envers Dieu. Dans la deuxième table, t'avais nos devoirs envers les hommes. Et on sait que il n'y a aucun homme sur la terre qui est capable d'accomplir les décalogues, les 10 commandements à la perfection. On a tous manqué, et on a tous manqué des centaines, des milliers, si ce n'est pas des millions de fois. Alors, personne d'entre nous n'aurait pu jamais se présenter devant Dieu parce que c'était les critères qu'il exigeait pour qu'on puisse vivre en sa présence. Comment le Seigneur peut-il nous laisser vivre en sa présence si on décède aujourd'hui et qu'on lui appartient? À cause de la personne de Christ. À cause que lui avait la loi dans son cœur et il l'a parfaitement accompli et ça a été mis sur notre compte. À cause du fait de la foi qu'on croit que le Seigneur a non seulement subi le châtiment qui aurait dû être le nôtre, l'enfer éternel, mais qu'il a accompli les exigences de Dieu. Les deux. Il a pris nos péchés, il les a portés, il a subi le châtiment qui aurait dû être le nôtre, et il a pris sa justice, parce que lui, comme homme, il a accompli parfaitement la loi, et il l'a mis sur notre compte. Quelle merveilleuse affaire! Tous mes péchés, il les a pris, puis il les a mis sur Christ, puis il a jugé mes péchés que j'aurais dû avoir, la punition éternelle, il les a jugés sur son Fils. Après que ça a été fait, il a pu transférer la justice de Christ et la mettre sur mon compte à moi. Alors le Seigneur me voit aujourd'hui comme ayant accompli le décalogue à la perfection durant toute ma vie. Alors que je sais très bien que c'est pas le cas. Mais c'est par l'œuvre de Christ, par la foi en Christ, que le Seigneur permet que ce transfert-là se fasse. Il permet que je croie que mes péchés ont été jugés par Jésus-Christ, puis il permet que je croie que la justice qu'il exigeait, c'est Christ qui l'a fait à ma place. Le salut, c'est simple. Christ a payé mes péchés à ma place, puis Christ a accompli ma justice à ma place. Quand tu comprends ça, le salut, c'est d'une simplicité puis d'une beauté incroyable. Deuxième partie, alors si tu veux, Lucie, on va regarder la deuxième partie, la partie le propitiatoire, qui est le couvercle du dessus. Verset 17 à 21. Ouais, la deuxième partie. Alors ici, on voit le couvercle comme tel. Ça, c'est ce qu'on appelait le propitiatoire. C'est l'ensemble. C'est pas juste le couvercle ici, là. C'est l'ensemble. C'était le couvercle et aussi d'or battu à ses deux extrémités, les deux chérubins qui avaient leurs ailes l'un envers l'autre, qui regardaient la face vers en bas et qui avaient la face l'un vers l'autre. OK. L'autre ici. Alors ici, on voit l'arche de l'Alliance, qui était la base, et on voit sur le dessus le couvercle qui avait été mis par-dessus. On voit les deux barres, et on voit aussi l'arche de l'Alliance, qui est la base, et le propitiatoire, qui est l'ensemble du couvert avec les chérubins. OK. Et ici, ben là, on voit les trois. On voit le couvert, c'est-à-dire on voit l'arche de l'Alliance qui était vide, avec son couronnement, avec les quatre anneaux, avec les deux barres. Et ici, on voit le couvert qui était d'or pur, massif. Et les deux anges ici étaient d'or battu. C'est-à-dire, c'était pas de l'or qui avait été coulé et collé dessus. Il fallait que ça soit d'or battu, donc fait au marteau. Ça prenait une habileté extraordinaire pour être capable de faire des choses semblables. Alors le Seigneur, l'Esprit de Dieu avait donné à certains hommes la capacité de faire ces choses-là. Et ça ici, ça l'avait pour but de venir sur le dessus. Et c'était ici, sur le propitiatoire, que le souverain sacrificateur venait une fois l'an avec le sang du taureau et le sang du bélier, à la fois pour ses propres péchés, pour les péchés du peuple. Ça se faisait une fois par année. Il fallait qu'il respecte certaines qu'on a vues tantôt dans Lévitique. S'il ne faisait pas ça, puis il rentrait là une fois, il mourait. Et on voit qu'à l'intérieur, ici dans le verset, il nous dit pas qu'est-ce qu'il y avait, il dit le témoignage que je te donnerai, mais dans un peu plus loin, on va nous dire, on va rencontrer le passage où il nous parle des trois éléments. Donc la verge d'or, la verge, c'est-à-dire d'Aaron qui avait fleuri, les deux tables du décalogue et le pot de marbre. C'est tout. Que tu peux me ça. Alors, on a regardé la première partie, l'Arche de l'Alliance. On va maintenant regarder la deuxième partie, qui est le propitiatoire comme tel. Alors, les matériaux, verset 17. « Tu feras un propitiatoire d'or pur. Sa longueur sera de 2 coudées et demie et sa largeur 1 coudée et demie. » Alors, le propitiatoire était d'or pur, ça venait symboliser la parfaite divinité de Christ. Le propitiatoire était un lourd couvercle d'or massif, appelé par les Hébreux Kaporet, K-A-P-P-O-R-E-T-H. Le verbe kiper, duquel est tiré le nom Kaporet, a le sens de couvrir les péchés ou faire propitiation, détourner la colère de Dieu. Alors, le sang qui était versé là-dessus, c'était le symbole que le sang de Christ couvrait nos péchés. Dans Romains 3, versets 25 et 26, ça nous dit, « C'est lui, on parle de Christ, c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire. » Dans ma version à moi, là, c'est vraiment dans cette partie-là, dans Romains 3, versets 25 et 26. Dans certaines versions, ils ont changé propitiatoire pour expiatoire. Il y a une différence théologique entre le mot expiation et propitiation. Le mot propitiation, c'est vraiment, comme je vous ai dit tantôt, l'idée de détourner la colère de Dieu. La personne qui n'est pas réconciliée avec Dieu, la parole de Dieu nous dit que la colère de Dieu demeure sur lui. Et quand on est en Christ, la colère de Dieu est détournée à cause de son Fils. Et dans le verset 26, on va le relire, « C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. » Pourquoi Dieu peut nous dire à nous qu'on est des justes? C'est pas à cause de Dieu a tout à regarder nos actions, nos pensées, nos paroles, puis il a dit, on va tout mesurer ça, on va tout additionner ça. Lui, il est pas pire, mais lui, il manque souvent, là. C'est pas une addition, c'est un transfert. Très important à saisir la différence. Donc, on a les dimensions. Les dimensions étaient les mêmes que le coffre. C'est sûr que si tu veux qu'un couvercle embarque sur un coffre, il faut que ça ait les mêmes dimensions. Les auteurs que j'ai utilisés parlent ici que ça parle de complémentarité. Le couvert du dessus avait les mêmes dimensions que le couvert en dessous. Complémentarité. 2,5 plus 2,5, il y avait deux choses, deux aspects, ça fait 5. 5 grâces. 1,5, puis le couvert du dessus, 1,5. 1,5 plus 1,5. 3, Trinité, propitiation par la Trinité, grâce par la Trinité. Merveilleux. Hauteur, 1,5. Et toutes ces choses-là, c'est plein de symbolisme. Il faut regarder et étudier plus en profondeur et comprendre. Versets 18 à 20. Tu feras 2 chérubins d'or. Tu les feras d'or battu aux 2 extrémités du propitiatoire. Donc, on a vu tout à l'heure sur l'image, il était aux 2 extrémités et il était d'or battu. L'or battu, ça veut dire que ce n'était pas un morceau d'or qu'on avait coulé dans quelque chose et qu'après, par quelque façon que ce soit, on avait collé sur le dessus. Il fallait qu'il vienne de la pièce d'or même, mais battu au marteau. D'or battu, c'est ça que ça veut dire. Et on va voir que, quand on va étudier aussi le chandelier d'or qui représentait Christ, qui lui était à la gauche, quand on regarde l'image, là, on voit qu'il était à la gauche dans le sein, lui aussi, ça devait d'être fait d'or battu. Alors, ce n'était pas quelque chose qu'on avait moulé, c'était quelque chose qui avait été battu. Et je pense qu'il y a encore un symbolisme assez puissant qu'on voit que toutes ces choses-là. Et on est rendu 18. 18, il fera d'or battu aux deux extrémités du propitiatoire. Fait un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Vous ferez les chérubins sortant du propitiatoire à ces deux extrémités. Les chérubins étendront leurs ailes par-dessus le propitiatoire, par-dessus le couvert, couvrant de leurs ailes le propitiatoire et se faisant face l'un à l'autre. Les chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire. Les chérubins d'or battu faisaient un tout avec le propitiatoire d'or pur, étant tirés de lui. Les impressionnantes silhouettes des chérubins parle de la toute-puissance et de la justice de Dieu. Cette fois, la parole de Dieu rend témoignage que l'Éternel est assis entre les chérubins. Ses princes parmi les anges couvrent de leurs ailes l'arche. Les gardiens de l'arbre de vie n'éloignent plus l'importun, mais cachent des regards ce qui ne doit pas être vu. L'intimité de Christ et de son épouse unis en un seul corps. Ah, moi, je trouve ça fantastique. C'est comme les anges, quand les hommes ont été jetés du paradis terrestre, qu'est-ce que le Seigneur a mis à l'entrée du paradis? Des chérubins avec une épée flamboyante qui avait pour but d'empêcher les hommes d'entrer dans le paradis. Et ici, on voit les chérubins qui ne sont plus, ils sont désarmés. Ils n'ont pas d'épée dans les mains pour empêcher les hommes de rentrer. Ils sont dans une attitude d'adoration. Et regarde ce que le Seigneur a fait. Ils sont en admiration. Les gardiens de l'arbre de vie n'éloignent plus l'importun, mais cachent les regards, ce qui ne doit pas être vu. L'intimité de Christ et de son épouse unis en un seul corps. Leur position maintenant. Ils avaient pour but de couvrir le propitiatoire. Quand on parle de couvrir, on parle de protection. Les chérubins sont la manifestation de la sainte présence et de l'inaccessibilité de Dieu. Ils sont les saints gardiens de la justice du Très-Haut. Tant que le sang n'a pas été versé. Ils sont face à face. Étant un en face de l'autre, ils regardent le même objet. Et, face en bas, le regard vers le propitiatoire dans une attitude d'humilité, d'admiration, d'adoration. Sa complémentarité avec l'arche, dans le verset 21, tu mettras le propitiatoire sur l'arche. Alors, le couvercle, il fallait qu'il soit couvert par le couvercle. Il fallait que le coffre soit couvert par le couvercle. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche. Et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Voyez-vous, ça fait deux fois que le Seigneur il dit qu'il va mettre quelque chose dans l'arche. Il n'a pas encore dit quoi, mais on sait par d'autres passages que c'était le pot de manne, que c'était la verge d'Aaron et que c'était les deux tables du décalogue. Très important pour le symbolisme de Christ. Alors, face en bas, le regard vers le propitiatoire, attitude d'humilité, attitude d'admiration, attitude d'adoration. Sa complémentarité avec l'arche, le couvercle ou propitiatoire se devait d'être placé sur le coffre ou l'arche de l'Alliance. C'était sur ce couvercle que devait être versé le sang de la victime pour couvrir les péchés. Lévitique 16, versets 1 à 19. L'Éternel parla à Moïse après la mort des deux fils d'Aaron qui moururent en se présentant devant l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, « Parle à ton frère Aaron afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire. » au-dedans du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Il se revêtira de la tunique sacrée de lin et portera sur son corps des caleçons de lin. Il se ceindra d'une ceinture de lin. Il se couvrira la tête d'une tiare de lin. Ce sont les vêtements sacrés dont il se revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau. On voit aussi, quand on va étudier le tabernacle, on va voir de quelle façon le souverain sacrificateur était habillé. Les différentes robes, les différentes couleurs. C'est magnifique, ça aussi. Il recevra, verset 5, de l'assemblée des enfants d'Israël, deux boucs pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui, pour sa maison. Il prendra les deux boucs, il les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Verset 8, Aaron jettera le sort sur les deux boucs, un pour l'Éternel et un pour Azazel. Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel et il l'offrira en sacrifice d'expiation. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel afin qu'il serve à faire l'expiation, qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison et il égorgera son taureau expiatoire. Il prendra un brasier plein de charbon ardent ôté de dessus l'autel devant l'Éternel, et deux poignées de parfum odoriférant en poudre portera ces choses au-delà du voile. Il mettra le parfum sur le feu devant l'Éternel, afin que la nuée du parfum couvre le propitiatoire qui est sur le tabernacle, et il ne mourra point. S'il avait rentré plus qu'une fois par année, s'il avait rentré en ne respectant pas d'avoir été chercher des braises et du parfum odoriférant, il serait mort quand il aurait rentré là. Verset 14, « Il prendra du sang du taureau et il fera l'aspersion avec son doigt sur le devant du propitiatoire vers l'Orient. Il fera avec son doigt sept fois, voyez-vous, sept fois. On pourrait l'aspersion du sang devant le propitiatoire. Il égorgera le bouc expiatoire pour le peuple et il emportera le sang au-delà du voile, dans le Saint des Saints. Il fera avec ce sang comme il l'a fait avec le sang du taureau, il en fera l'aspersion sur le propitiatoire et devant le propitiatoire, c'est ainsi qu'il fera l'expiation pour le sanctuaire à cause des impuretés des enfants d'Israël et de toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il fera de même pour la tente d'assignation qui est au milieu d'eux, qui est au milieu de leurs impuretés. Il n'y aura personne dans la tente d'assignation lorsqu'il entrera pour faire l'expiation dans le sanctuaire jusqu'à ce qu'il en sorte. Il fera l'expiation pour lui, pour sa maison, pour toute l'assemblée d'Israël. Semble-t-il que, d'après les commentaires hébreux, que le souverain sacrificateur, on lui attachait une corde après le pied, de manière à ce que s'il avait oublié quelque chose, qu'on puisse le sortir de là. C'était comme les Juifs interprétaient ça de cette façon. En sortant, il ira vers l'autel qui est devant l'Éternel, et il fera l'expiation pour l'autel. Il prendra du sang du taureau et du bouc, et il en mettra sur les cornes de l'autel tout autour. Il fera avec son sang sept fois l'aspersion du sang sur l'autel. Il le purifiera et le sanctifiera à cause des impuretés des enfants d'Israël. On sait que ces choses-là étaient dans le but de présenter l'œuvre de Christ en image, en symbole. Quand Christ est venu, il a repris les mêmes symboles et là, lui a montré au peuple que ces choses-là étaient maintenant accomplies. Troisième point, ce qui n'est pas le point le moins important, c'est le lieu de rencontre dans le verset 22. Verset 22, après que le Seigneur a eu donné la description exacte de ce qu'il voulait avoir, autant pour l'Arche de l'Alliance que pour le propitiatoire, maintenant, il leur a dit une chose extrêmement importante. Verset 22, « C'est là que je me rencontrerai avec toi, le souverain sacrificateur. Du haut du propitiatoire, entre les deux chérubins placés sur l'arche du témoignage, je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. » Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est un lieu de rencontre. C'est le lieu où Dieu a pu venir nous rencontrer à cause du sang de Christ, à cause de la personne de Christ, sa divinité, son humanité en une seule personne, à cause de toutes ces choses-là. Tout cet arrangement avait un but précis, fournir un lieu où Dieu pouvait se manifester à Moïse et à ses successeurs. C'était un lieu de rencontre, mais c'était aussi un autre lieu, un lieu de grâce. Le Seigneur manifesterait sa grâce glorieuse par et à travers la glorieuse personne de Jésus-Christ. Autre chose, c'était aussi un lieu de direction. Le Seigneur dit, « Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. » À travers Christ, le Seigneur donne ses ordres à ses enfants, Israël à l'époque, nous maintenant. À travers Christ, le Seigneur donne ses ordres. Quelles sont les applications qu'on peut faire du texte aujourd'hui? J'ai pris des... Les images pour comprendre un peu ce texte-là, quand on veut le reviser, disons, dans un an, vous lisez le livre d'Exode 25, bien, et là, vous aimeriez reviser. Si on n'a pas les images, c'est sûr que des fois, on peut retenir ce qu'on a vu, mais des fois, on peut les oublier aussi. Alors, ce que j'ai fait, j'ai trouvé sur Internet des images où on voit où le Saint des Saints est situé par rapport au parvis, et aussi, j'ai trouvé une image où on voit à la fois l'Arche de l'Alliance et si jamais vous aimeriez avoir des copies de cette étude-là, vous avez juste à me demander, je vous les donnerai. Maintenant, à partir d'une leçon comme celle d'aujourd'hui, est-ce que ça a juste pour but de nous rentrer des renseignements dans la tête juste pour qu'on devienne plus savant? Oui et non. Oui, parce que le Seigneur veut qu'on s'instruise. Nos comportements changent à partir de notre doctrine. La doctrine est très importante parce que c'est à partir d'elle que nos comportements changent. Ça, c'est... Parlez à n'importe quel théologien, prenez n'importe quel livre de théologie, et ils vont dire il y a un lien direct entre la connaissance que tu as de la doctrine et ton comportement dans la vie de tous les jours. Parce que si la doctrine est bien comprise, elle va impliquer un changement, une obéissance dans la vie du croyant. Sinon, ça rentre par l'oreille, comme Jacques dit, on est des auditeurs oublieux, ça rentre, ça sort. Ça vaut zéro. Le Seigneur nous apprend des choses et ça a pour but de nous transformer, de nous faire ressembler davantage à la personne de Christ. Et s'il n'y a pas de repentance dans nos vies, il faut se poser des questions sur la nature de notre foi. Peut-être est-elle fausse. Application. J'en ai sorti au moins trois. Sans doute qu'il y en aura beaucoup plus que ça. La première. Notre réconciliation avec Dieu n'est possible qu'à cause de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Il était parfaitement homme, l'arche de l'Alliance, la base, le couvercle, pas le couvercle, mais le coffre, et parfaitement Dieu, le propitiatoire, une personne, deux natures. Il a été la victime propitiatoire pour le péché de ses élus. En anglais, le propitiatoire, il appelle ça the mercy seat. Ah, que j'aime cette expression-là. Le siège de la miséricorde. The mercy seat. Quand tu prends n'importe quel livre anglais, ils vont te parler du propitiatoire, ils vont dire the mercy seat. C'est intéressant de voir que le propitiatoire, c'était l'endroit où Dieu exerçait sa miséricorde. Donc, il a été, Jésus-Christ, la victime propitiatoire pour le péché de ses élus. C'est sur lui que Dieu le Père a déversé sa colère. Celle que nous aurions dû subir, c'est lui qui le prend à notre place. S'il nous était donné de comprendre ce que ça veut dire aller en enfer pour l'éternité, les cheveux nous dresseraient de sa tête et nous deviendraient complètement blancs. Et on se mettrait à trembler comme des feuilles, j'en suis convaincu. On a une notion de l'enfer qui est intellectuelle. Si je vous dis, approchez-vous en avant, puis je vais sortir une torche, tu sais, une petite bonbonne, là, puis je vais mettre le feu sur de longs bouts, puis venez ici, puis deux hommes vont vous tenir la main, vous ne pouvez pas bouger, puis je vais vous foutre sur la main. Là, vous allez comprendre c'est quoi souffrir du feu. Puis vous allez avoir juste la main. puis vous allez avoir peut-être juste 30 secondes ou 10 secondes ou une seconde. Puis vous allez en avoir plein. Les Écritures nous décrivent l'enfer comme étant un lieu où on va être plongé vivant dans le lac de feu, mais pour l'éternité, avec en présence des démons, ça va être épouvantable. C'est un lieu, on a intérêt à revoir ces choses-là de temps en temps et à méditer sur ces choses-là de temps en temps. Cette fameuse colère-là, là, c'est dans cet endroit-là qu'on aurait tous dû aller. Les seules personnes qui n'y auront pas, c'est ceux qui ont cru en Jésus-Christ et qui ont ajusté leur vie, la vie d'une manière à ce que ça démontre la véritable foi que tu as en lui. Aujourd'hui, on vit à une époque où il y a beaucoup de gens qui disent croire en Christ, mais leur vie ne démontre pas l'authenticité de leur foi. Très dangereux. On vient d'Amérique du Nord, et à cause de l'arminianisme et à cause de certaines fausses prédications qu'il y a eu dans le passé, les gens s'imaginent que juste croire en Christ, croire en son œuvre, croire en sa personne, que ça les libère du péché et qu'ils vont aller au ciel automatiquement, même s'ils vivent la vie qu'ils veulent. C'est pas ça que les Écritures enseignent. C'est pas ça que les Écritures enseignent. Deuxième application. Nous avons le devoir de mieux connaître le trésor qui nous a été confié et nous nous devons de le porter sur nos épaules pour le faire voir à tous dans sa beauté et dans sa richesse. On se doit de partager ce qu'on a reçu, la personne de Christ, l'œuvre qu'il a fait pour nous. Si on comprenait, là, quand je vous parlais de l'enfer, là, l'enfer c'est quelque chose, si on la comprenait, on serait tellement terrorisé qu'on tremblerait pour le reste de nos jours. Mais là aussi, il y a une autre réalité, c'est qu'il nous a donné le ciel, il nous a libéré de ça pour nous donner quelque chose qui encore est une notion intellectuelle, la béatitude avec Dieu, la vision de Dieu, la communion fraternelle avec les anges et avec les saints. On s'imagine, on a une idée, mais l'idée est loin de la réalité. Dieu est tellement parfait dans chacun de ses attributs, comme on a parlé dans la leçon ce matin en bas, tellement parfait que l'éternité même ne suffira pas pour nous en faire découvrir toute la beauté, toute la richesse, le côté infini de sa personne. On va découvrir chacun de ses attributs. On est rendu à 18 là, dans notre étude, et on n'a pas fini. Et tu vas découvrir chacun de ses attributs, tu vas en découvrir tout le temps, puis tu n'atteindras jamais le fond. Et on a parlé un matin de transport d'allégresse. On va vivre dans une béatitude, dans un transport d'allégresse. Quand on comprend qu'à cause de Christ, de quoi on est sauvé, puis à cause de Christ, qu'est-ce qui nous a été donné? Les extrémités sont tellement loin l'une de l'autre que c'est presque impossible à vraiment. On n'apprécie pas notre salut comme on devrait. Même le chrétien le plus saint sur la terre n'apprécie pas son salut comme il le devrait. Il ne comprend pas vraiment ce que c'était l'enfer. Il ne comprend pas ce que c'est vraiment le ciel. S'il le comprenait, il passerait ses journées à louer le Seigneur. Il passerait ses journées à se sanctifier beaucoup plus qu'il se sanctifie. Quand on comprend, mais Dieu a permis qu'on ait fait d'une certaine façon. Le Seigneur a souvent dit aux apôtres, vous êtes lents à apprendre. Moi, je l'avoue, bien humblement, je suis lent à apprendre, mais j'apprends. J'avoue, je pense que j'évolue et je veux continuer à évoluer jusqu'à la fin de mes jours. C'est ce qui est beau dans la vie chrétienne, le Seigneur est patient. S'il n'était pas patient, là, ça serait pas drôle. Là. Des fois, il nous enseigne 10 fois la même affaire, on n'a pas compris encore. Là. Il doit dire, franchement, font-tu dur? Ah non, il nous aime. OK. Troisième application. Prions le Seigneur de nous donner d'étudier plus les Saintes Écritures afin d'en découvrir toute la profondeur, toute la sagesse et toute l'intelligence. Les Saintes Lettres nous parlent du Seigneur et du Sauveur. Luc 24, versets 25 à 27. Alors Jésus leur dit, « Ô hommes sans intelligence! » Ça te fait penser à quelqu'un? T'as des sauvés, ça? « Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » De là, je pense que le verset nous dit quelque chose. Si lui dit que dans tous les livres des Écritures, on parle de lui, j'espère qu'on va lire notre Bible au moins une fois, d'un couvert à l'autre par année. Si on veut comprendre que dans tous les livres de la prophétie, dans tous les livres de la Bible, c'est le fil conducteur, c'est lui qui est le fil conducteur. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot, il y a un bon mot. Fil conducteur pour comprendre, apprécier ce que sont les Écritures. Que notre Sauveur, Jésus-Christ, soit adoré à tout jamais. Amen. Alors, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons à ta sainte présence. Seigneur, tu nous as donné quelques informations sur le propitiatoire et l'Arche de l'Alliance, qui sont des images sur ta divinité, sur ton humanité, et toutes des choses qui nous parlent de toi. Seigneur, donne-nous d'aller plus souvent dans les Écritures et de nous attarder à des petits passages et à chercher à en comprendre toute la profondeur, toute la sagesse, toute la beauté. Seigneur, nous avouons que parfois nous lisons les Écritures trop rapidement et que nous les étudions pas assez. Alors toutes ces choses nous passent par-dessus la tête, et ce qui est dommage, Seigneur, parce que toutes les Écritures parlent de toi. Permets qu'on t'aime assez, Seigneur, pour aller découvrir dans chacun des livres des Saintes Écritures que nos habitudes quotidiennes concernant la lecture t'honorent, Seigneur, et que nous cherchions à découvrir qui tu es dans l'ensemble des livres des Écritures, de manière à ce que nous t'aimions davantage, que nous te servions davantage, et que nous t'adorions de mieux en mieux chaque jour. Te demandons ces choses par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen.